Interview. 1. L'interview du jour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On est en compagnie de Marie et de Maria, qui sont co-autrices du livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution ». Ce sont des récits de femmes internationalistes au Rojava. Vous êtes sur RDIWA 107.5 et 101.7 et aussi sur internet www.rdiwa.fr. Bonjour Marie, bonjour Maria et bonjour Nikita.
Salut.
Bonjour.
Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que on pourrait d'abord parler de la région du Rojava? Qu'est-ce que c'est le Rojava aujourd'hui?
Alors, le Rojava, en fait, c'est une partie du Kurdistan. Donc, le Kurdistan, c'est la région des Kurdes. Donc, ce n'est pas un État. Les Kurdes sont le peuple le plus grand au monde sans État. Et le Rojava, en fait, c'est une des quatre parties du Kurdistan. C'est l'ouest. Rojava, ça veut dire ouest en kurde. Et donc, c'est une région qui est notamment connue pour la révolution du Rojava. Donc on parle de la révolution du Rojava, notamment depuis 2011, 2012, et dans le cadre du printemps arabe et du soulèvement des peuples en Syrie. En fait, cette région-là, le Rojava, s'est libérée et a repoussé l'armée de Bachar al-Assad et a créé une région donc, libérée de cette dictature et met en place depuis un projet politique qui s'appelle le confédéralisme démocratique. Donc voilà, donc c'est un territoire en fait qui est en constante évolution. Donc comme j'ai dit, à la base, c'est le nom des régions majoritairement kurdes. Donc c'est vraiment la partie de la Syrie qui est juste tout près de la Turquie, donc tout proche de la frontière avec la Turquie. Mais en fait, concrètement, aujourd'hui, le territoire qu'on appelle le Rojava est bien plus grand que les régions historiquement majoritairement kurdes et inclut, en fait, descend vers le sud jusqu'à des résorts et inclut des régions majoritairement arabes. En fait, c'est un territoire qui évolue au fur et à mesure des guerres. C'est notamment Daesh qui a été repoussé et qui a fait que le territoire s'est énormément agrandi. Mais il y a aussi des invasions par l'État turc. Donc, qui font que plusieurs zones du Rojava sont en fait actuellement occupées par la Turquie. Donc, c'est une géographie, une région en fait qui est en constante évolution et en fait en lutte permanente.
Alors, comment on fait partie du Rojava? Juste pour essayer d'avoir une vision concrète de la chose, le Rojava, est-ce que c'est une région qui a un poids diplomatique? Est-ce qu'il y a des citoyens, des citoyennes? Est-ce qu'il y a une constitution?
Alors, le territoire aujourd'hui, administrativement, enfin les territoires politiques, ça s'appelle l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Donc, comme le disait Marie, il y a maintenant 7 régions administratives qui composent cette administration autonome et en fait qui n'a été reconnue à ce jour que par le Parlement de Catalogne. Voilà, c'était récemment qu'il y a eu cette reconnaissance par le Parlement catalan. Et qui donc n'a pas de poids dans les institutions internationales de type comme l'ONU ou ses différentes agences, mais qui par contre en fait s'engage dans des négociations, dans des discussions et dans des échanges diplomatiques avec énormément de pays, notamment parce qu'en fait maintenant il contrôle environ un tiers du territoire syrien. Et donc, bien sûr, ils ont un poids, elles ont un poids à jouer dans les négociations, notamment en vue de trouver une solution politique pour toute la Syrie, en essayant de dépasser en fait le régime dictatorial qui avait été mis en place par le régime basse, le parti basse en Syrie. Et donc, ils négocient notamment aussi avec les forces américaines qui sont présentes sur le terrain, les forces russes. etc., etc., avec énormément aussi de pays européens ou de pays du monde par rapport au fait qu'il y a sur le territoire énormément de membres étrangers de l'État islamique qui sont aujourd'hui emprisonnés, puisque les gens qui ont quitté leur pays pour rejoindre l'État islamique en Syrie et qui sont maintenant dans les prisons contrôlées par l'administration autonome. Et avec notamment voilà, des États qui les rapatrient, mais principalement des États qui ne les rapatrient pas, ce qui est une charge financière aussi énorme pour l'administration autonome. Et en fait, il y a deux contrats sociaux qui ont été écrits en 2014 puis en 2016 qui existent et qui font office de constitution et qui donc donnent un certain nombre de droits à tous les citoyens et citoyennes, effectivement. Mais ce contrat social est en ce moment en fait en cours de réécriture, puisqu'il y a justement, comme le disait Marie, des régions qui ont été nouvellement libérées, enfin après 2016, qui ont été libérées des mains de Daesh. Et donc maintenant, avec toutes les populations de différentes régions, il y a un travail de réécriture de cette constitution.
Du coup, c'est écrit, enfin le livre que vous avez écrit, c'est un récit de femmes internationalistes. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, dire justement ce que ça signifie internationaliste ?
Ben, je pense que pour nous toutes, alors déjà, on est 12 femmes qui avons ensemble écrit ce livre et on a toutes des parcours assez différents et une expérience au Rojava assez différente, donc c'est très éclectique, mais effectivement, ce qu'on a en commun, c'est de nous voir comme internationalistes au Rojava. Et donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on reconnaît aussi en tant que femmes la lutte des femmes au Rojava et au Kurdistan comme une lutte qui concerne en fait toutes les femmes à travers le monde, qui est une lutte pour créer une société sans patriarcat, où les femmes sont libres. Et du coup, c'est une lutte dans laquelle, et un projet politique dans lequel on se retrouve, qu'on a envie de soutenir. Et donc, c'est ça, je pense, le sens qu'on donne au mot internationalisme, et notamment femmes internationalistes.
Et pour reprendre aussi un petit peu l'historique chronologique, enfin la chronologie plutôt, donc de ce que j'ai pu comprendre, c'est dans les années 90 qu'une armée de femmes s'est créée, c'est bien ça ?
Oui, alors au sein de la guérilla du mouvement de libération kurde, il y a eu la création d'une armée autonome des femmes et d'un parti autonome des femmes, mais qui du coup n'avait pas à ce moment-là d'existence propre dans la société au Rojava. Au Rojava, les forces d'autodéfense féminines, les YPG, YPJ, elles ont été constituées en 2013, le 8 mars 2013.
D'accord. Et c'est en 2015 qu'il y a eu justement qu'il y a eu un peu un tournant, j'ai l'impression, qui a permis d'avoir beaucoup de manifestations de soutien en Europe. Enfin, moi, je me souviens surtout en France, justement, quand Daesh a été repoussé grâce à cette armée de femmes.
Oui, c'est ça. C'est notamment à la bataille de Kobané qui a vraiment marqué un tournant dans le combat contre Daesh. Jusque-là, on voyait le territoire de l'État islamique s'étendre. Il n'y avait pas une vraie force sur le terrain qui s'affrontait, qui confrontait Daesh, qui combattait, parce que Daesh gagnait aussi du terrain en propageant des images terrifiantes et qui faisaient fuir en fait des combattants. Et effectivement, les YPJ sont devenues très connues parce que justement, elles ne se sont pas laissées intimider, elles sont allées au combat et elles ont infligé une défaite absolument déterminante à Daesh. Et ont permis de, d'entamer en fait la défaite territoriale de Daesh. Mais il faut bien dire que aujourd'hui encore, Daesh continue d'exister, de faire des attaques. Et donc effectivement, il y avait une visibilité médiatique des jeunes femmes, des YPJ en 2014-2015 qui combattaient Daesh. Mais aujourd'hui, il y a un silence autour d'elles qui n'est absolument pas justifié. Alors déjà, parce que ce combat a demandé donc la seule bataille de Kobané a exigé en fait la mort de 6 000 combattantes et la guerre contre Daesh a demandé 11 000, la vie à 11 000 combattantes et combattants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Il y a aussi énormément de blessés de guerre. Donc les femmes qu'on voyait sur les écrans en 2014-2015, il y en a énormément qui sont en fait handicapées à vie parce qu'elles se sont données à ce combat-là. Et en plus, aujourd'hui encore, Daesh continue à faire des attaques via des cellules dormantes qui sont présentes dans le nord-est de la Syrie et qui visent aussi surtout les femmes et les institutions que les femmes mettent sur place. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a complètement disparu des médias parce qu'on a l'impression que Daesh n'est plus une menace pour nous en Occident, alors que pour les femmes et les hommes sur place, c'est une menace encore très réelle.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre voyage qui vous a permis d'écrire ce livre ? Comment est-ce que vous vous êtes impliquée personnellement dans cette lutte et un récit de vos expériences ?
Oui, du coup pour moi en fait ça s'est passé avec une mise en contact progressive en fait avec le mouvement de libération kurde que j'ai connu en fait en étant à l'université, en ayant des camarades étudiants kurdes, en discutant avec eux, en organisant avec elles aussi des événements culturels, des conférences, etc. sur le Rojava, sur le Confédéral démocratique, et ça m'a donné envie d'en savoir plus, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir au Rojava et d'aller, on peut dire m'immerger totalement dans cette révolution pour y participer. Et là-bas, j'ai principalement travaillé et dans la gynologie, qui est la science des femmes, qui a été pensée par le mouvement des femmes kurdes, proposée depuis, on va dire, le début des années 2010, pardon. Et aussi un peu dans la presse, notamment à la télévision des femmes, qui s'appelle Jeune TV. Et donc j'ai eu l'occasion en fait, de découvrir le système qui était mis en place, les différentes institutions de femmes qui s'organisaient, et surtout de voir à quel point la question de l'autonomie des femmes, c'était important au Rojava, et à quel point la révolution des femmes, justement, elle était centrale en fait dans tout le processus révolutionnaire qui a lieu sur le territoire. Et juste pour donner un exemple concret, à cette télévision des femmes où j'ai travaillé, eh bien, on n'était que des femmes. Donc voilà, à assurer toutes les tâches nécessaires à la production d'une télévision, qui est aussi en fait avec des groupes qui travaillent dans différentes parties du Kurdistan et en Europe, et qui diffuse toute la journée des programmes avec par exemple des reportages sur le quotidien des femmes dans les villages, sur les différentes institutions des femmes qui existent et qui organisent aussi des débats politiques avec des femmes, des émissions culturelles, etc. Et donc toute la production, la caméra, le montage, la préparation, tout le travail de la télévision par exemple est organisé et réalisé par des femmes du début à la fin.
Oui, ce qu'on apprend dans le livre, en fait, c'est qu'il y a vraiment une volonté dans le Rojava de changer de paradigme, d'aller vers la démocratie, l'écologie et la libération des femmes. Mais c'est vraiment un mouvement qui est assez global, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, ça demande vraiment de repenser et de recréer toutes les institutions de la société, que ce soit l'éducation, donc il y a un nouveau programme scolaire et universitaire qui a été créé depuis le début de la révolution, et il faut s'imaginer que ça fait même pas 10 ans, donc c'est un énorme travail. Ouais. En fait, le programme scolaire enseigné sous le régime de Bachar al-Assad, il a notamment été changé pour pouvoir donner de la place à l'histoire des autres peuples de la région. Par exemple, le programme scolaire du régime baathiste était fort centré sur un nationalisme arabe, alors que le nouveau programme scolaire parle aussi de l'histoire des Kurdes, l'histoire des Arméniennes et Arméniens, etc., l'histoire de tous les peuples, et évidemment aussi du peuple arabe qui est le plus nombreux dans la région. C'est aussi un programme scolaire qui est enseigné en plusieurs langues. Enfin voilà, ça c'est pour le volet éducation, c'est un énorme travail de créer tout ça.
En France, justement, c'est ça qui m'avait vraiment impressionné aussi en lisant votre livre, c'était sur les manuels scolaires. Puisque en France, par exemple, en 2017, il y a quelques manuels scolaires qui ont commencé on apprenait en fait la place du clitoris, par exemple, qui était complètement absent des manuels scolaires. Et en histoire, par exemple, les femmes ont été quasiment effacées en fait, de l'histoire. Et vous, déjà, vous parlez de sexisme, vous parlez de la généalogie, et ça va beaucoup plus loin que juste la tribu sexuelle, par exemple. Donc c'était vraiment inspirant, en tout cas.
Exactement, exactement. J'allais en parler aussi dans le cadre des programmes scolaires universitaires. Ça inclut des cours de généalogie. Et dans les cours de généalogie, il y a aussi des cours sur l'anatomie des femmes et des hommes, mais donc aussi l'anatomie des femmes, effectivement, qu'on invisibilise complètement dans tout le, enfin, à travers le monde. Et la généalogie, ben, c'est aussi une approche vers les origines de l'oppression de l'humanité, qui du coup va puiser son inspiration dans les sociétés matriarcales, donc avant l'émergence du patriarcat, et qui vise en fait à éveiller une conscience chez les jeunes filles et chez les femmes de leur force à travers l'histoire, de leur rôle qu'ils ont joué dans l'histoire des résistances aussi et des révolutions. Donc c'est à la fois l'histoire des oppressions des peuples et des femmes, mais aussi vraiment visibiliser le rôle que les femmes ont joué à travers l'histoire. Donc ça, c'est vraiment un point très important et très différent par rapport au programme scolaire qu'il y avait avant.
Et même en fait pour les hommes au niveau d'éducation, puisque vous faites aussi, enfin les hommes peuvent aussi suivre des études qui permettent de transformer leur mentalité sexiste, quelque chose qu'on a du mal à voir en France et ou en Europe. Et je me demandais justement comment ça se passait. Est-ce que c'était les hommes qui, d'eux-mêmes en fait, ont demandé ces cours-là? Comment ça s'est passé?
Oui, alors en fait, c'est plus que des études, on pourrait dire que c'est des formations, non, qui ont lieu sur des périodes données, ou alors des séminaires qui ont lieu de manière régulière dans les différentes institutions ou dans les différents quartiers aussi, qui sont organisés de manière démocratique. Je pense qu'une partie des hommes les ont demandé, une partie clairement non. Enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir de réponse générale, dans le sens où, bien sûr, il y a un processus révolutionnaire de libération des femmes qui est en cours dans la région. Mais il y a énormément d'hommes qui restent empreints de mentalité patriarcale, comme c'est le cas partout où il y a eu il y a encore des luttes féministes. Enfin, c'est un combat qui prend du temps, et cette transformation des mentalités, on espère qu'on le verra plus aussi avec les nouvelles générations. Parce que pour le coup, les garçons ont aussi au lycée, par exemple, des cours de généalogie, et même dès les premières classes, en fait, des cours autour du sexisme, etc., dans le programme obligatoire de l'école. Et après, les formations qui ont lieu sur des périodes données, elles sont soit basées sur le volontariat, soit c'est des formations qui font partie en fait du programme de formation qui existe pour les différentes institutions. Par exemple, on va dire les travailleurs des municipalités, tous les gens qui sont employés par la municipalité de leur ville vont avoir régulièrement, on va dire une fois par an par exemple, un mois de formation. Et à ce moment-là, ils vont aussi avoir dans ce contenu de formation des formations sur l'histoire des femmes, sur le sexisme et sur la généalogie. Et ça, c'est obligatoire, quoi. Enfin, à partir du moment où ils intègrent ce programme de formation, ils auront aussi ces formations-là en particulier.
Est-ce que vous pouvez nous brièvement nous redéfinir ce qu'est la généalogie?
Comme je disais, du coup, c'est la science des femmes, dans le sens où le mot généalogie, hein, dans lui-même, il est composé du mot gine, qui veut dire femme en kurde, mais qui veut aussi dire la vie, en fait, enfin, qui a la même racine que le mot vie. Et logie vient de logos en grec, donc la science, la raison. Et donc la généalogie, c'est la science des femmes, de la vie et de la société. Et donc, elle a été proposée par Abdullah Öcalan, qui est le leader du mouvement de libération kurde, qui l'a proposé au mouvement des femmes, en fait, de s'en saisir et de créer une science qui serait à mi-chemin entre mettre en rapport, hein, enfin, une science sociale, en fait, mais qui intègre aussi beaucoup d'éléments philosophiques et beaucoup d'études historiques, voire archéologiques, qui cherchent à redéfinir, rechercher l'origine de l'oppression des femmes, mais aussi rechercher toute l'histoire de résistance des femmes, non seulement au Kurdistan, mais à travers le monde, et à analyser la société d'aujourd'hui à partir du point de vue des femmes, étant donné qu'elles sont la plupart du temps oblitérées en fait, des recherches historiques, d'autant plus quand il s'agit des femmes qui viennent de pays colonisés, et qu'elles ont peu de positions dans le monde universitaire pour pouvoir écrire elles-mêmes. Et après, la généalogie, en fait, c'est une science, et donc elle s'organise avec des instituts de recherche et des académies de formation. Au Rojava, énormément d'académies et de centres présents, puisque justement on est sur un territoire libéré, mais il y a aussi des groupes de recherche dans les quatre autres parties du Kurdistan, et des comités de généalogie aussi présents en Europe, qui ont notamment commencé du travail de recherche sur l'histoire des femmes dans les différents pays européens, et aussi en Amérique latine.
Et j'ai une question, moi, qui me trotte. La place de la religion dans tout ça, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, alors c'est vraiment une question importante dans une région qui est vraiment quasi à 100% religieuse et croyante. Et donc, c'est quelque chose qui, en fait, fait partie dans le système du confédéralisme démocratique. La question de l'autonomie et la protection des minorités religieuses est très importante. Donc, notamment par rapport au régime de Daesh qui persécutait toutes les minorités religieuses et qui a même perpétré un génocide envers le peuple yézidi. En fait, les yézidis, c'est une religion et qui est composée ou pratiquée par des Kurdes, par un groupe de Kurdes. Et ben, sous le système du confédéralisme démocratique, l'idée, c'est vraiment que les religions puissent s'organiser, se protéger, mais aussi d'organiser une coexistence pacifique et de ne pas permettre qu'un groupe religieux ou que certaines croyances religieuses soient imposées à d'autres personnes. Mais donc il y a vraiment un travail actif par rapport à cette question-là et par rapport à l'islam. Donc la majorité de la population dans le nord-est de la Syrie est musulmane sunnite. Et il faut le dire, dans certaines parties de la région, il y avait une adhésion à l'idéologie de Daesh. Et donc, pour transformer les mentalités et vraiment travailler avec les gens qui se sont laissés convaincre par cette idéologie-là, il y a aussi un travail de relecture du Coran et de développer un islam démocratique. Donc c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et donc voilà, oui, c'est une question qui est tout à fait importante et qui fait partie du système politique.
Ce que je trouve vraiment beau aussi, c'est que vous parlez de libération des femmes. Nous, on parle beaucoup de lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple. Et en fait, justement, quand vous parlez de libération, moi, j'ai l'impression qu'ici, parfois, on ne se rend pas compte en fait, qu'on est enfermé. Et du coup, c'est plus sur, les violences où on parle des salaires, etc. Mais libération des femmes, ça parle vraiment de quelque chose de très global. Et je me demandais, vous, quel parallèle vous faites avec la France et aussi comment les hommes réagissaient à ça au Rojava.
Le parti pris d'analyse historique du mouvement des femmes kurdes, c'est de penser que l'oppression des femmes a été la première oppression dans l'histoire de l'humanité, et c'est qu'à partir de celle-ci qu'ont pu se développer les autres oppressions, que ce soit donc la création d'une société de classe, de l'apparition de l'État et donc de la domination et de la domination hiérarchique en général, et ensuite aussi la création de groupes constitués qui ont, qui soient sous la forme d'empire ou d'État aux différents moments de l'humanité, qui ont ensuite colonisé aussi différents pays, différents territoires. Du coup, à partir de là, en fait, c'est sans libérer les femmes, on n'arrivera jamais à libérer la société, puisque c'est l'oppression originelle, on pourrait dire. Les femmes sont la première colonie en tant que classe. Et donc, en fait, il y a toujours une oppression aujourd'hui qui a lieu sur la classe des femmes, qui, bien sûr, s'appelle le patriarcat, mais que donc, en fait, il ne s'agit pas seulement d'obtenir une égalité de droit avec les hommes ou d'obtenir l'arrêt des violences, mais de réussir à re-questionner la société, re-questionner nos mentalités, nos façons de faire, d'organiser le travail, de faire de la science, etc., etc., en fonction du point de vue collectif des femmes et en fonction des différentes réalités sociales qu'elles vivent aussi, voilà, sans unifier un modèle de la femme, mais de dire qu'en fait, il faut que les femmes, elles s'organisent entre elles, qu'elles débattent pour repenser la société de leur point de vue, parce qu'il y a énormément de valeurs notamment, qui étaient des valeurs partagées par tout le monde dans la société auparavant, qui ont été, dévalorisées ou complètement anéanties par le patriarcat, et qui sont aujourd'hui en partie conservées, notamment justement dans cette classe des femmes, et qu'il faut remettre à l'ordre du jour et qu'il faut re-questionner, à qui il faut redonner de la place dans la société.
Et je voudrais juste rajouter une chose, parce que tu te demandais les parallèles qu'on peut faire par rapport à la France ou l'Europe, et je trouve en effet, en tout cas quelque chose que moi j'ai vraiment retiré de mon expérience là-bas et qui m'a fort impressionnée, c'est une prise de conscience de la radicalité qu'il y a qu'on pourrait avoir dans les luttes féministes. Qu'en fait, une lutte contre le patriarcat, ça demande une transformation complètement radicale de la société, et c'est de toute façon une lutte anticapitaliste et antiraciste. Et qu'en fait, si on prend conscience de cette radicalité qu'on a en nous et que pourrait avoir nos luttes, ben, on pourrait aller très loin. Et ça, je trouvais ça très, très enthousiasmant. Et c'est quelque chose qu'en rentrant, que j'avais envie de transmettre et qu'on a aussi envie de transmettre à travers ces livres.
Ce qu'on peut lire aussi dans votre livre, c'est que vous parlez de vie libre ensemble. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée de faire avec les hommes. Et en France, quand on parle de féminisme, parfois on peut avoir des femmes et des hommes qui ont peur en fait que d'être complètement contre les hommes. Et je trouve ça beau en fait ce slogan de dire vie libre ensemble.
Oui, en fait ça c'est même un concept pour questionner aussi les relations, on pourrait dire maritales ou amoureuses. Aussi dans la société, pas seulement, mais c'est vrai que souvent c'est quand même aussi, entre guillemets, parce qu'il y a un espèce de nœud à cet endroit-là, on le voit, parce que les femmes kurdes disent aussi que la famille, c'est la plus petite cellule de l'État, et c'est un endroit où il y a énormément de reproduction de ces schémas d'oppression, de domination, mais qu'en fait, on ne peut pas effectuer une transformation de nos relations interpersonnelles sans transformer la société autour de nous, et que toutes nos relations interpersonnelles sont aussi liées les unes aux autres. Et donc, en fait, on n'arrivera jamais en tant que femme à vivre libre tant qu'on n'aura pas aussi transformé les hommes. Et donc, ça demande aussi énormément de travail. Après, donc, il y a voilà, cette idée de on ne va pas s'opposer aux hommes. Les hommes, individuellement, ne sont pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la mentalité patriarcale. Cette mentalité, elle existe aussi en chacun et chacune de nous. C'est elle qu'il faut combattre. Mais par contre, pour ça, il y a un outil qui est très clair, c'est l'organisation autonome, donc on pourrait dire non mixte, des femmes, à tous les échelons de gouvernance, dans toutes les différentes institutions de la société, dans le militaire, dans le civil, etc. Et sans cet outil-là, par contre, il y a un vrai danger pour la lutte de libération des femmes. Et donc si on fait avec les hommes, on fait aussi sans eux, dans des espaces définis. Et c'est que ces espaces définis d'organisation des femmes qui vont nous permettre d'effectuer ce changement de mentalité.
D'ailleurs, en parlant de changement de mentalité, ça me fait penser au documentaire qu'on peut voir sur le Rojava de Mylène Soloa, où il y a une femme qui est interrogée et qui dit l'important, c'est pour toutes les femmes dans le monde de pouvoir se libérer de la soumission qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Donc ça parle aussi de transformation assez profonde et ça parle aussi de quelque chose d'assez transcendant. Je trouve ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable d'entendre ça avec une personne qui tient une arme, quoi. C'était vraiment beau.
Oui, et effectivement, enfin, le vivre ensemble libre, en liberté, c'est un vrai chemin et de travail sur soi. Et un truc que je trouvais aussi vraiment impressionnant, c'est comment les espaces en non-mixité peuvent... donc en fait, en soi, ça peut paraître une contradiction parce qu'on fait sans hommes aussi dans ces espaces. Mais en fait, c'est aussi un espace où on apprend à nouer d'autres liens entre nous, entre femmes, et donc aussi à se rendre indépendante émotionnellement et à sortir d'un rapport de domination qui passe à travers les relations amoureuses, en vraiment développant les liens entre femmes pour après, forte de cela et indépendante, du coup, avoir des relations libres aussi avec les hommes, quoi.
Concernant, j'ai entendu Nikita tout à l'heure dire avec une arme, donc l'arme m'a interpellée, le mot. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de justement le fait de faire la guerre et d'être une femme et d'utiliser la violence contre un ennemi ?
Ouais, aucune de nous n'a été intégrée au combat, mais moi j'ai été à Deir-ez-Zor, donc était en fait l'endroit où il y a eu le dernier combat contre l'État islamique, en tant que membre de la presse de cette télévision des femmes, et j'ai pu là-bas aussi rencontrer des combattantes des YPG. Et par exemple, il faut comprendre qu'au Rojava, il n'y a personne qui a le droit de combattre sans recevoir d'abord une formation idéologique, parce qu'on veut savoir pourquoi on prend les armes et qu'est-ce qu'on défend. Et c'est vraiment les principes que c'est des forces d'autodéfense qui sont là pour défendre la population face à différentes attaques, mais qui ne sont en aucun cas là pour aller conquérir son territoire ou pour aller opprimer d'autres peuples, d'autres minorités, etc. Et d'ailleurs, au sein même des forces militaires, il y a aussi la constitution de bataillons indépendants, par exemple des Arméniens, des Syriaques, etc., qui ont aussi leurs propres forces. Il y a des forces qui sont aussi organisées localement. Et moi, j'ai été impressionnée justement par l'humanité des combattantes, mais aussi des combattants, et leur rapport à, après voilà, autant d'années de guerre contre l'État islamique qui avait quand même assassiné, esclavagisé des milliers de personnes de leur peuple, d'avoir toujours ce rapport à les voir non pas comme, notamment les femmes en fait, qui avaient aussi participé à l'État islamique, qui étaient aussi venues de l'étranger pour y participer, les voir moins comme des ennemis que comme des personnes avec qui il fallait rentrer dans un processus de formation et de rééducation pour les aider à sortir de cette emprise du patriarcat sur elles, parce que voilà, les femmes dans Daesh étaient aussi un outil de reproduction du patriarcat. Et d'avoir cette humanité en fait, en disant d'accord, peut-être que c'est des ennemis, mais avant tout c'est des femmes. Et d'avoir ce rapport-là, moi je trouvais ça assez impressionnant après autant d'années qu'elles soient capables de dire ce genre de choses. Et je pense qu'il y a aussi une question d'existence, une question existentielle dans la défense, et notamment quand il s'agit de la défense par rapport à l'armée turque, parce qu'en fait, c'est une menace existentielle contre le peuple kurde qui a quand même subi énormément de massacres au cours de son histoire. Donc ça donne aussi une force pour se libérer, avec aussi une conscience très accrue chez les femmes que l'armée turque et le régime fasciste turc en fait est un régime foncièrement patriarcal qui veut détruire tout ce qui a été achevé par la révolution des femmes. Et Marie va rajouter quelque chose aussi sur les forces de défense civile.
C'est ça. Donc moi non plus, j'ai pas eu d'expérience directe dans la lutte armée. Mais juste pour revenir sur cette image qu'on a beaucoup vue en Occident, des jeunes femmes jolies avec une arme qui, je pense, était très vendeur médiatiquement parce qu'ils correspondent à un fantasme masculin. En fait, ce qui m'a le plus impressionnée au Rojava, c'est les mères de famille. Qui en fait ont appris à se servir d'une arme pour se défendre dans une région exceptionnellement nécessaire, et ça fait partie, et ça va de soi que ça fait partie de l'autodéfense, et notamment l'autodéfense des femmes. Et donc il y a notamment une force civile qui a été mise en place au niveau de quartiers, c'est les HPC. Et donc il y a, comme pour toutes les institutions au Rojava, aussi une section féminine, les HPC JIN. Et donc, en fait, c'est des mères de famille qui ont une arme chez elles et qui vont sortir faire des rondes pour protéger leur quartier. Et voilà, donc c'est vraiment... c'est l'image aussi qu'on voit sur la couverture de notre livre. C'est vraiment représentatif de la force des femmes, de la force d'autodéfense des mères aussi. Et donc voilà, c'est une très, très belle image, je trouve.
C'est ce que vous dites d'ailleurs, que toute cette colère, parce qu'il y a eu beaucoup de tortures en fait, énormément de personnes qui sont mortes dans ces combats-là, et vous dites que cette colère aurait pu se transformer en vengeance, et en fait ici au Rojava elle se transforme en force, et c'est vraiment incroyable.
Oui, en fait c'est une conception de la vengeance dans le mouvement kurde qui consiste en fait à répondre avec la construction de quelque chose de nouveau, d'avancer en fait dans le processus révolutionnaire et notamment libération des femmes. C'est pour ça que, par exemple, il y a eu aussi la télévision des femmes. JIN TV, elle a été mise en place aussi suite en réponse à l'assassinat des 3 militantes kurdes à Paris en janvier 2013. Et c'était vraiment l'idée de dire, en fait, on reçoit une attaque, et ben nous, on avance d'un pas, on avance plus loin dans notre chemin révolutionnaire.
D'ailleurs, vous avez avancé en construisant des maisons des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, c'est des espaces, en fait, on pourrait dire de justice transformatrice, hein, comme parmi les termes qu'on utilise plutôt dans le contexte européen. C'est en fait des espaces de justice qui existent en parallèle des institutions mixtes et qui sont donc en fait gérés de manière autonome, non mixte, par des femmes qui sont bénévoles et qui accueillent des femmes qui sont dans des situations compliquées, qui ont des demandes particulières ou qui sont dans des situations aussi surtout de violence conjugale ou de problèmes, on pourrait dire, au sein de la famille, et qui viennent dans ces espaces chercher de l'aide, chercher des conseils, connaître leurs droits aussi, hein, tout bonnement, dans ces espaces qui existent dans les différents quartiers et dans les différents villages. Sur tout le territoire, il y en a énormément des maisons des femmes, et c'est notamment une des premières institutions qui a été construite au début de la Révolution et qui ont été mises en place après dans les territoires au fur et à mesure qu'ils étaient libérés de Daesh. Et donc l'idée, c'est en fait d'essayer d'avoir un processus de réconciliation quand c'est possible, avec aussi les autres personnes concernées. Donc par exemple, on va dire si c'est le mari avec le mari, en le convoquant, en l'amenant à discuter, en le faisant réfléchir, en éventuellement aussi l'éduquant par rapport à certains sujets pour essayer de trouver une solution au problème. On pourrait dire par exemple, c'est une famille qui laisse place à leur fille étudier à l'université, voilà, c'est pareil. De la même manière, les femmes de la maison des femmes vont aller voir la famille, essayer de les convaincre, etc. Et avec une idée, en fait, d'essayer de ne pas passer par les institutions de justice de type tribunal, de ne pas passer par des jugements, mais de passer d'abord par un processus de discussion, de débat, de réconciliation et de conviction, en fait, en convainquant les autres personnes qui posent problème de trouver une solution aussi ou de changer leur comportement.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'actualité du territoire du moment. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur ce qui se passe aujourd'hui ?
Oui, c'est une bonne question, notamment parce que on en parle peu dans l'actualité, alors qu'en vrai, la guerre dans la région, elle continue. Et les gens là-bas continuent à se battre pour leur survie, et notamment contre l'État turc. Donc, comme on l'a déjà dit au début, l'État turc a en fait envahi la région plusieurs fois et occupe des territoires dans lesquels tous les acquis de la révolution ont été démantelés, qui sont en fait dans un processus d'annexation à l'État turc et dans lesquels différents groupes mercenaires de l'État turc règnent dans la terreur. Et donc, suite à ces invasions, il y a énormément de personnes qui ont dû fuir. Donc, à travers le nord-est de la Syrie, il y a plein de gens qui vivent en fait dans des camps de déplacés internes, dans des conditions extrêmement difficiles, notamment, entre autres, en tout cas, dû au problème d'eau. Donc, c'est une autre dimension de la guerre que la Turquie mène contre la région, une guerre de l'eau. La Turquie contrôle notamment l'Euphrate et le Tigre qui naissent en fait dans le Kurdistan en Turquie. Mais depuis les années 70, la Turquie a construit plusieurs énormes barrages le long des rivières qui font que notamment l'Euphrate, qui sert à l'irrigation et à la production d'électricité dans le nord-est de la Syrie, a complètement, a très très fortement baissé en niveau. Donc ça pose des graves difficultés pour la population locale. Un autre aspect de l'eau, parce que c'est vraiment vital et ça crée des tensions et des conditions de vie extrêmement difficiles dans la région. Il y a une station d'eau qui se situe dans les territoires occupés, donc ils sont sous contrôle de l'armée turque et qui alimente 500 personnes qui vivent dans la région autour de la ville de Hesseke, 500 000 personnes et 500 000 personnes qui vivent dans des camps de déplacés qui dépendent de cette eau-là. Donc en tout, 1 million de personnes qui dépendent de cette station d'eau et qui est régulièrement coupée pour forcer la région à approvisionner ses zones occupées en électricité, etc. Enfin voilà, c'est 1 million de personnes qui se retrouvent régulièrement sans eau. Une troisième dimension de cette guerre permanente et de basse intensité, c'est en fait le long des territoires occupés, il y a des attaques permanentes. Alors qu'en théorie, il y a un cessez-le-feu qui devrait être protégé par la Russie, qui a des bases militaires le long des territoires occupés, il y a en permanence des tirs de roquettes qui font des morts, qui obligent les gens à fuir leur maison et qui font, encore une fois, régner la terreur et maintiennent un climat d'instabilité. Et en plus de ça, il y a des menaces permanentes par la Turquie de mener une nouvelle invasion qui... maintiennent aussi une instabilité structurelle permanente.
Est-ce que pour cette triste actualité, je dirais, il y a un appel à soutien international ? Comment est-ce que nous, ici, impuissantes, pouvons-nous agir ?
Alors, il y a plusieurs campagnes en ligne
enfin, qui informe sur des actions, les grandes manifestations, notamment Rise Up for Rojava et Women Defend Rojava. Donc Women Defend Rojava, c'est en fait une campagne spécialement pour les femmes et ensuite de solidarité internationale entre femmes qui a été créée par l'Organisation des Femmes au Rojava. Et donc, tout le monde peut se tenir au courant sur Twitter et en ligne des appels à action et des campagnes en cours actuellement.
Il va aussi y avoir enfin, une prochaine date un peu importante, ça va être le 8 janvier, une manifestation qui va avoir lieu à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France, notamment à Marseille, à Toulouse, etc., pour demander la vérité et la justice par rapport à l'assassinat des trois militantes kurdes à Paris en janvier 2013, parce que ça fait donc depuis 2013 qu'il n'y a pas de résultat d'aucune enquête. Et donc c'est la responsabilité de la France, en fait, de mener ce travail d'enquête, en sachant qu'il y a plein de preuves qui pointent la responsabilité des services de renseignement turcs dans cet assassinat. Et voilà, donc ça, ce sera le 8 janvier 2022.
Et ce qui nous semble particulièrement important par rapport à la solidarité avec le Rojava, c'est pas seulement de montrer du soutien d'ici à là-bas, mais c'est aussi de prendre conscience que toutes les menaces qui pèsent sur la région, toutes les formes de guerre et les armes de guerre que la Turquie utilise contre cette région, bah, elles prennent racine ici, puisque la Turquie est dans l'OTAN, puisqu'elle est un allié important de l'Union européenne, qu'il y a des accords pour que la Turquie retienne des réfugiés en échange de sommes énormes. Et donc voilà, donc il y a un soutien très clair qu'on voit en Europe envers la Turquie, et donc aussi un devoir de solidarité et de prise de conscience de ça ici, quoi.
Et d'ici le 8 janvier, on va essayer d'en parler vraiment partout autour de nous. Et on peut conseiller aux auditrices et aux auditeurs de lire ce livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution », qui est autant, qui a autant un passage sur l'historique et sur tout ce qui se passe au Rojava, mais aussi beaucoup de témoignages par des textes, des lettres de femmes qui ont passé du temps au Rojava.
Est-ce que vous allez y retourner ?
On espère.
D'accord, vous êtes encore en lien avec la région ?
Oui, bien sûr, on a créé des liens aussi en étant resté là-bas, on a rencontré des gens avec qui on parle aussi, on suivait l'arrivée de la pluie là à l'automne, et bien sûr, on suit aussi ce qui se passe, la situation, et aussi ce qui continue à être mis en place. Il y a plein aussi d'initiatives de solidarité directe aussi, qui existent et qui sont en train de se mettre en place en fait entre la France, la Belgique, etc. Et là-bas, et donc on suit aussi tout ce travail-là et on continue à diffuser l'information, à en parler, parce qu'on pense que c'est aussi surtout une inspiration pour nous pour créer des choses aussi ici.
Eh oui, c'est ça. C'est ce que je retiendrai de cette interview.
C'est cette sororité qu'on voit vraiment au Rojava et que j'ai moins envie de développer, et qui est vraiment inspirant aussi en France, en Europe et partout dans le monde. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de nous transmettre depuis le Rojava, ou même vous, de votre propre expérience, quelque chose qui vous tient à cœur ?
En fait, ce que tu viens de dire, si c'est ça que les gens peuvent retenir du livre, c'est de renforcer la sororité entamer une transformation radicale chez nous aussi. Ce serait super, c'est le petit livre.
Ouais, c'est vrai que l'autogestion féministe fait rêver. Marie et Maria, je pense qu'on arrive à la fin de cette discussion. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment un honneur d'avoir deux autrices, de « Nous vous écrivons depuis la Révolution ».
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, à bientôt, bonne soirée, et bonne lutte.
Merci, au revoir.